Qu'est-ce qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Orabastins. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Le week-end festin culturel à la cave de Saint-Sardos, c'est samedi et dimanche. Marché bio, balade culturelle, conférences, ventes et bien sûr dégustation, pièces de théâtre et concerts rock. Il va s'en passer des choses à la cave de Saint-Sardos. L'occasion de fêter un vin bien de chez nous, qu'on aime bien retrouver sur nos tables. On va en déguster ce soir, messieurs, dames, en compagnie de nos invités. Romain Miramont, vigneron bio à Saint-Sardos. Bonjour Romain.
Oui, bonjour.
Merci
bonjour
d'être là. Bertrand Guiraud, vigneron et président du syndicat de l'AOC de Saint-Sardos. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et puis, on va même avoir droit à de belles histoires, puisque Jean-Louis Debrulle, qui officiera pendant le week-end des festins culturels sur des balades comtées, dans lesquelles il racontera l'histoire du vignoble, eh bien, nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui dans nos studios pour nous raconter justement l'histoire de Saint-Sardos. Bonjour.
Bonjour à tout le monde également.
Merci d'être là en tant que professeur d'histoire et j'imagine aussi en tant qu'épicurien, hein, si j'en crois votre embonpoint. Enfin, moi je dis ça, je dis rien.
Oh le salopard, t'as vu, il casse les lèvres dessus.
C'est gratuit, ça.
Voilà, c'est gratuit.
Ça, c'est pour mettre dans l'ambiance.
Ouais, bonjour, il vaut mieux faire envie que faire pitié, mon cher, disait-on chez moi. Salut à tous.
Comment ça va?
T'es impeccable.
Quel est ton programme?
On va parler des asperges.
Ah bah,
les asperges.
Chaque année, tu nous le ressens
ouais,
de toute
oui.
manière.
C'est
les asperges. Les asperges.
Voilà. Voilà. Ben oui, mais c'est, surtout ça dure
que,
pas longtemps.
Surtout qu'on risque de prendre de grosses amendes si on va aux asperges maintenant.
En plus, les frangines aux asperges.
Ouais, 1500 euros, c'est chaud.
Hein. Ouais, quand même.
Ouais, ouais. Il y a intérêt qu'elles soient bonnes.
Ça fait réfléchir. Bonjour Georges.
Bonjour tout le monde.
Au programme aujourd'hui.
Ce soir, un peu de musique brésilienne, vu le temps qu'il fait, on va vers le soleil, alors ça sera Tana Maria.
Bah, allez, sortez les strings.
Bonsoir tout le monde.
Salut ce Christophe.
Soir, on va se retrouver à 1966, figure-toi, avec ce hors-série des Un Rock qui est vraiment exceptionnel, et du coup on n'écoutera que des morceaux sortis cette année magique pour la musique.
D'accord.
66.
Les Stones, les Beatles.
Voilà.
On passera un coup de fil à Colline Desjean, également, elle est cofondatrice de Mamie Régale. Qu'est-ce que c'est Mamie Régale? En fait, c'est une sorte de site, de plateforme internet qui permet à des personnes âgées à la retraite de se mettre au fourneau pour faire à manger, hein, pour préparer des menus que tu peux manger, toi, au bureau.
Voilà. Ouais, les petits plats de nos grands-mères.
Ah, bah,
magnifique.
Donc, c'est un site internet hein, sur lequel les mamies, les papis...
On fait travailler les retraités.
Ouais, c'est ça, on les remet au boulot, les
Très bien.
Et puis, je vous emmènerai en balade à Toulouse. Je vous ferai une petite proposition d'un resto que j'ai visité hier. L'alimentation, ça s'appelle. Et c'est plus qu'un resto, c'est un food store. Donc, je vous emmènerai tout à l'heure en reportage.
Food store.
Monsieur fréquente des endroits.
Ah ouais, là, c'est du bobo plein fer.
Ah ça, c'est... Là, on y est, effectivement. Messieurs, dames, c'est qu'est-ce qu'on déguste? Spécial vin de Saint-Sardos. Et ça commence comme ça. Santé. Ah ben là de suite c'est l'été, tu vois.
On est bien meilleur que le rosé. Le rosé, il est trop mangé.
C'est un rosé de table.
Ouais, il est trop bon, il est
ah ouais. Rosé de table avec un. Du volume,
c'est pour ouvrir l'appétit, il est bien.
Non, ouais.
C'est bon. En même temps, l'appétit, il n'y a rien à manger. Hein. C'est pas qui sait qui devait emmener quelque chose, non, Pascal?
Non, moi je ne sais pas comme ça, rien du tout. Du tout.
Just keep me hanging up.
can do about it.
Somme à 1966 avec ce célèbre morceau de The Supremes, You Keep Me Hanging On. C'était sur le label Motown, hein, le célèbre
et ça
label.
Vieille,
ça
n'a
pas vieilli. C'est toujours aussi bon. Ça pourrait être fait hier.
Avec notamment Diana Ross, donc, au chant. Et on parlera de cette année 66 tout à l'heure, donc, à l'occasion de la sortie de ce hors-série des In Rock consacré à cette année magnifique pour la musique.
Qu'est-ce qu'on déguste spécial week-end festin culturel à la cave de Saint-Sardos. Donc on reçoit Romain Miramont, vigneron bio, Bertrand Guiraud, président du syndicat AOC de Saint-Sardos, et puis Jean-Louis Debrul, professeur d'histoire, qui nous en dira un peu plus sur l'histoire de Saint-Sardos et de son vignoble. Commençons peut-être par une sorte de carte d'identité comme ça du vignoble de Saint-Sardos et de son AOC, monsieur le président Bertrand Guiraud.
Alors la cave coopérative déjà a fait ses 60 ans cette année, et oui, en 1956 elle a été créée par quelques centaines de vignerons. Maintenant on est 40 adhérents et on a l'appellation AOC Saint-Sardos depuis 2011, qui nous garantit en fait la qualité et d'un produit en fait, donc depuis 2011, et on est sur environ 100 hectares en fait en appellation d'origine.
Uniquement, vous êtes où, en Tarn-et-Garonne, un peu dans le Gers?
Non, principalement dans le Tarn-et-Garonne, ouais. Autour de Saint-Sardos, La Razée, Sérignac, voilà.
C'est une grosse propriété, quoi, c'est tout.
Voilà.
Ouais. Il faut dire que l'appellation Saint-Sardos, c'est quasiment uniquement une cave coopérative et un vigneron indépendant qui n'est pas dans la cave coopérative. Donc ils sont 40 coopérateurs et c'est 99% de l'appellation et un vigneron qui lui refuse la coopération et qui ne
il n'y est pas.
Donc
c'est un ancien coopérateur.
C'est rigolo comme situation et ça dure depuis
voilà, ça. Il y a une très bonne entente au sein du syndicat.
Ils se foutent le feu dans les
villes. Des maladies, oui, mais pas le feu, ça se voit trop.
Et alors c'est le même terroir partout parce que
Y a des terroirs différents, il y a des terroirs qui sont en appellation d'origine contrôlée puisque bon il faut quand même des terres pour une bonne exposition, voilà.
C'est quoi le type de terre? C'est argilo-calcaire, c'est les
alors on est sur
argilo-calcaire et boulbène.
Et boulbène, donc des terres quand même boulbène, c'est quand même lourd, fort.
Voilà, on a deux types deux principaux types de sols sont argilo-calcaire et boulbène.
Et donc on est grosso modo sur les terrasses. Les lointaines terrasses de la Garonne.
Oui.
Non. Les lointaines
terrasses de la Garonne.
Lointaines,
oui,
on peut dire ça, ouais. À l'époque, il y avait quand même de l'eau dans le coin.
Ouais. Non, mais là.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est des sédiments qui de la Garonne qui, à l'époque, sont
remontants? Oui, tout le haut, là, sur ces collines, c'est
si j'en transformais l'eau en vin, quoi.
Voilà.
Au Crétacé, il y avait la mer, quoi.
Tout à fait. Ça fait d'excellents terroirs pour le vin, pour la vigne.
Oui. Et puis on est sur deux cépages principaux, dans la Syrah et le Tannat, hein, et on est les seuls à faire en fait à assembler ces deux cépages, et ça lui confère en fait un parfait équilibre en fait entre les notes épicées, le Tannat qui apporte quand même une certaine puissance, et c'est pour ça qu'on vend très bien nos vins.
Mais vous en faites pas beaucoup, même
sur 100 hectares. On n'en fait pas beaucoup, pas assez, en fait. Ouais. Il faudrait qu'on trouve, je passe le message, s'il y a des personnes qui voudraient s'installer dans la vigne, voilà.
Alors on est recruteurs.
On connaît dans le Bordelais.
Il y a des vignes à acheter ou à vendre. Il y a des choses à reprendre.
Tout à fait, oui. On peut planter. Il y a des vignes qui seront à reprendre, et bien sûr, parce que c'est toujours un renouvellement, une coopérative. Il y a des personnes qui partent parce que bon, vis-à-vis à cause de la retraite. Des jeunes qui arrivent, comme Bertrand, moi, il y a un peu.
Ça coûte quoi un hectare à Saint-Sardos, un hectare de vigne?
Un hectare de vigne, on doit être dans les 6 000 à 7 000 euros l'hectare.
Oui, donc.
C'est pas excessif.
C'est vraiment bien.
Quand on est acheteur, c'est pas très cher, mais quand on est vendeur, c'est très cher.
Voilà. Oui, bah, il faut une adéquation.
Alors il faut qu'on m'explique, moi, parce que si tout le monde emmène son vin à la cave coopérative, c'est la cave coopérative qui vinifie avec son œnologue, qui fait sa tambouille et qui sort finalement sa gamme de vin, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Et alors comment ça se fait que notre invité ici à ma gauche, Romain Miramon, lui fait du vin bio et vigneron bio, biodynamie même, je crois.
Bio de court.
Tout le monde n'est pas bio, rassurez-moi.
Non, en fait, on est en culture raisonnée. Oui. En fait, on a des techniciens qui passent au moment clé de la vigne pour nous dire quand traiter et où. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi, on fait le minimum de traitement quand on est en lutte raisonnée. Hein. Après, quand on est en bio, comme Romain...
En bio, oui, voilà. Après, en bio, la différence, le bio, c'est un gros travail d'observation dans le vignoble. Si on parle, que ce soit en termes d'entretien du sol, par rapport à la concurrence de l'herbe entre la vigne et l'herbe, voilà, qui a un certain équilibre. Et ensuite, vis-à-vis des traitements, tout ce qui est, on va dire, les principales maladies que l'on connaît, qui sont le mildiou et l'oïdium. Voilà, on essaye, c'est une observation, donc je suis quotidiennement dans les vignes. Donc après, on connaît avec l'expérience, on sait qu'on a des parcelles qui...
Donc on met la chaise longue, on allume une bouffarde si on fume et on regarde ce qui se passe.
Ouais, voilà.
C'est
bienvenu comme ça, c'est bienvenu.
Vous
pouvez faire venir du monde.
Combien vous êtes de vignerons bio parce que ça sert à rien de faire du bio si on mélange son vin à...
Il est tout seul pour le moment.
Il y a des circuits séparés. Ouais. Mais tu n'étais pas là à l'émission.
Il y avait plein d'auditeurs qui sont venus pour écouter CFM aujourd'hui qui n'étaient pas là la dernière fois.
Mais c'est vrai aussi.
Réexplique alors.
Non, ils ont à la cave, ils ont fait des circuits effectivement pour sortir un vin bio dans une coopérative où il y en a un sur 40 qui est bio. Il y a des circuits séparés. Voilà. Alors on peut pas dire que c'est pas forcément imperméable entre les circuits, mais le vin qui est là, c'est le vrai vin qui est sorti de ces raisins.
Voilà, c'est les raisins. Moi, j'amène à la cave des raisins bio, et la cave a une traçabilité qui permet qu'aucun mélange n'est bien sûr fait. On a un côté bio et un côté conventionnel, on va dire.
C'est tellement contrôlé.
Ah, c'est tellement, on peut pas faire n'importe quoi. C'est impossible.
Dans le pilar, on peut pas faire n'importe quoi. Allez,
Encore moins dans les petites appellations.
Oui, c'est vrai que là vous êtes tout petit, donc c'est vrai que c'est plus facile à, c'est plus facile à contrôler. Et là, c'est le bio à Saint-Sernin, c'est une tendance de fond, ou pourquoi un, et puis pourquoi toi par exemple, et puis il y en a d'autres qui se posent la question.
Alors pourquoi moi, c'est en fait, je suis il y a cinq ans que je me suis lancé là-dedans. Bon, j'avais une expérience auparavant dans ce milieu-là. J'ai découvert le bio là où j'ai travaillé précédemment. Et donc, ça m'a convaincu de revenir travailler les vignes de mon père et de forcément me lancer dans le bio, quoi.
Et faire un vrai vin, quoi. Pas un vin technologique, pas un vin fait à coup de paquets de sucre et d'enzymes gloutonnes.
Si on à partir de là, on va dire qu'on utilise des levures indigènes. Si on commence à parler, voilà,
levure indigène,
donc c'est les levures qui sont naturellement sur la peau du raisin. Mm-hmm. Et donc. C'est levure.
Comment? J'ai oublié de couper.
Repéré. Téléphone repéré. C'est levure lance naturellement la fermentation alcoolique. Et donc, on n'a pas d'apport, on va dire, de levure autre.
D'apport de goût autre que le goût du terroir et du raisin. Et voilà. Du climat et du vigneron.
Exactement. Et donc, c'est pour vraiment ressentir le côté terroir et raisin dans les vins, quoi.
Alors,
inquiétez pas, on va continuer de parler des vins de la cave de Saint-Sardos en compagnie de Bertrand Guiraud, président de l'AOC, et puis de Romain Miramont, vigneron bio que vous venez d'entendre. Mais on va aussi parler de l'histoire de ce vignoble, puisque nous avons avec nous Jean-Louis Debrule. Vous êtes professeur d'histoire à la retraite et vous, pendant le week-end du festin culturel, vous allez raconter l'histoire de ce vignoble de Saint-Sardos.
De Saint-Sardos, plus que du vignoble.
Hein. Ouais.
Alors, j'ai été sollicité il y a quelque temps par...
Alors, il faut que vous vous rapprochiez bien du micro, s'il vous plaît. Voilà.
Oui. J'ai été sollicité il y a quelques semaines par la cave de Saint-Sardos qui m'a demandé si je pouvais faire autour du vignoble, mais en tenant compte aussi du village de Saint-Sardos, si je pouvais faire une animation qui permette de mieux faire connaître le village. On m'a demandé de le faire à deux reprises, et le samedi après-midi et le dimanche matin. Alors, évidemment, quand vous venez à Saint-Sardos et que vous regardez les sites qu'il y a, c'est un tout petit village, hein. Donc je vais surtout m'appuyer sur l'histoire, hein.
Ouais.
Donc j'ai...
Ben, ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse.
Oui.
Il est né quand, ce village de Saint-Sardos? C'est quoi? C'est médiéval?
C'est une sauveté. C'est un village qui est à dater du début du XIIe siècle.
D'accord.
Voilà.
Sauveté, ça veut dire quoi?
Sauveté, c'est-à-dire que...
Sauveterre.
Il est fait... Oui, comme il y a des villages...
Comme Sauveterre de Rouergue, par exemple.
Sauveterre de Rouergue, la Salvetat Saint-Gilles, par exemple. Ça vient évidemment de là. Il s'agit de villages créés par, en partie, l'Église, mais il peut y avoir aussi des partenaires qui soient laïcs, des seigneurs, par exemple, qui promettent aux gens qui viennent s'installer une garantie d'homme libre. Voilà.
D'accord.
Donc ça, dans une période aussi trouble que celle de cette période-là, c'est quelque chose qui est tout à fait estimé et estimable. Par la suite, ce mouvement se poursuivra par les Bastides, la création des Bastides.
D'accord. Donc à ce moment-là, en 1200 et quelques...
1100 et quelques.
Ah oui, 1100 et quelques.
1126.
D'accord. Donc, ouais, c'est autant de Conan le barbare, par là. Il n'y a pas de raisin encore à ce moment-là.
Si.
Qu'est-ce qui se passe?
Si.
Ah si?
La vigne, oui, la vigne est importée par... C'est les Romains qui l'amènent.
Hein. En 1100 et quelques, ils faisaient déjà du vin à Saint-Sardos.
Oui.
Il y avait la Garonne.
Alors, c'est pour... Oui, c'est une région qui est réputée pour ses vins, et il a fallu que Rome légifère pour qu'on évite d'introduire les vins d'Aquitaine, de Saint-Sardos en particulier, à Rome.
Ah bon?
On légifère pour qu'on utilise d'abord les vins romains.
D'accord.
Les vins italiens.
Pour empêcher le commerce, pourquoi, c'était du protectionnisme à l'époque de
voilà,
la Rome.
Voilà, pour éviter que...
Mais il devait être bon surtout, en
que,
plus.
Oui,
que les Romains, ils buvaient un truc mélangé avec de l'eau de mer, des épices.
Donc on mettait le vin à l'époque, c'était dans les jars, là, en...
Les amphores.
Hein, ouais. Les amphores, ouais. Ouais, on est tous des amphores.
Très en forme.
Voilà. Ah ouais, très en forme. D'accord. Mais à quel moment il devient bon, le vin de Saint-Sardos?
Alors, quand on le boit, monsieur le président.
Il est surtout très réputé en Angleterre. Je sais pas si vous avez quelques souvenirs scolaires, mais une grande partie du bassin aquitain est anglais. Notamment à la période de Richard Cœur de Lion, hein, qui est un plantagenet, qui est un français plutôt qu'un anglais. Et donc, les anglais sont très en demande de ce type de vin qu'ils appellent des Bordeaux. Et les Bordeaux, tels qu'on en parlait à cette époque-là, remontent jusque à Toulouse par la vallée de la Garonne. Hein. Il s'agit de vins de la vallée de la Garonne.
D'accord. Et Saint-Sardos, c'était du Bordeaux, quoi. Bah, non, mais
ce sont des vins de Garonne.
Avec appellation. C'est pour du Bordeaux, ouais.
Quand j'ai dit qu'on était sur les terrains de la Garonne, finalement.
Mais parce que Bordeaux... mais je savais déjà qu'on prenait, par exemple, le Brulois, pour leur composante très noire, pour donner un peu de couleur au Bordeaux.
Qui était un clairet. Ça s'appelait un clairet.
Ben oui, et les Bordelais vont faire exactement comme ont fait les Romains. C'est-à-dire qu'ils vont interdire la remontée de ces vins en partance vers l'Angleterre tant qu'ils n'avaient pas vendu les leurs.
D'accord.
C'était quoi les cépages, on sait ou pas?
Non, là je suis pas assez... Ouais,
c'était du raisin. Ouais. On nous demande du jazz dans l'oreillette.
Ah bon?
Ouais. Ah, okay, des noms.
Oui. Aujourd'hui, avec le soleil, je vais vous faire voyager au Brésil avec Tana Maria, une chanteuse pianiste brésilienne. Elle a commencé le piano à l'âge de 7 ans parce que son père était musicien. Il a senti qu'elle était douée pour ça, donc il lui a bien fait travailler le piano. C'est une pianiste classique. À 13 ans, elle a gagné un concours et à partir de 17-18 ans, elle s'est mariée. Elle est devenue musicienne professionnelle. Et en 1970, il y a un Toulousain qui se baladait au Brésil, qui s'appelait Claude Nougaro, qui l'a remarqué, qui l'a fait venir en France pour faire la première partie de son spectacle à l'Olympia. Puis elle a eu l'occasion de jouer par à droite et à gauche, et elle était à un moment donné, elle était à Montparnasse dans un club, et il y a Eddie Barclay qui passait par là. Qui l'a remarqué, elle a fait de bonnes rencontres, et qui l'a engagé, qui lui a fait signer un contrat, et sa carrière a commencé. Et après, elle est restée en France jusqu'en 81, après elle est partie aux États-Unis. Elle est revenue en France en 96, où elle s'est mariée avec un Français, puis elle, qui est son manager, et elle continue toujours la musique, mais toujours en étant entre le jazz et la musique brésilienne. Et là, nous écoutons dans un morceau qui s'appelle Giorno Brasiliano.
Faço desse amor que me maltrata, me alucina e que me mata devagar. O que é que eu faço da saudade dos momentos onde a gente só queria se amar? Meu chorinho brasileiro, ero, 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 fabricado no estrangeiro, ero, 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 apoiado no pandeiro, ero, 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 que me faz tanto chorar. O que é que eu faço desse amor que me maltrata, me alucina e que me mata devagar? O que é que eu faço da saudade dos momentos onde a gente só queria se amar? Desse chorinho brasileiro, ero, 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 fabricado no estrangeiro, ero, 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 apoiado no pandeiro, ero, 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 que me faz tanto chorar. Meu bem, volte por favor. Você sabe que eu estou sofrendo, escondendo a dor. Demais uma ilusão. Se a falta foi minha ou sua, aí não está a questão. Me liga, estou esperando no amor. Ninguém tem razão. O que é que eu faço desse amor? O que é que eu faço do bandeiro? Desse chorinho brasileiro, fabricado no estrangeiro.
Samba, la musique brésilienne avec la pianiste Tana Maria.
Ce week-end, c'est le week-end de festin culturel à la cave de Saint-Sardos, samedi, dimanche.
Ils ont fait quoi inventer pour vendre leur jargon?
Ouais, mais culturel. Écoute, si,
pas du tout, là.
Culturel parce qu'il y a à la fois, d'abord, le vin lui-même, peut dire que c'est culturel quand même aujourd'hui. Il y a un terroir, il y a des gens qui le font, donc on est aussi dans une certaine culture. Mais il y a aussi de la musique, il y a du théâtre. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Vol en intérieur. Il y a les braqueurs qui
Il y a pas un vide-grenier ?
Qui joueront. Il doit y avoir un vide-grenier.
Un vide-grenier ?
Non, il n'y en a pas peut-être, je ne sais pas.
On me confirme qu'il y a un vide-grenier à Saint-Sardos.
Il y a un marché bio, il y aura un vide-grenier aussi.
Il y aura un vide-grenier à la salle des fêtes, et d'ailleurs il y aura des calèches qui feront le transfert de la salle des fêtes, qui est en contrebas, pour amener directement à la cave. Comme ça, ils n'ont pas besoin de la prendre
à la voiture.
Pour
ceux qui sont trop bourrés, ceux qui sont trop bourrés pour remonter la pente, ils font une calèche.
Et bien sûr, on déguste les vins de la cave de Saint-Sardos. Est-ce qu'il y a des choses à grignoter aussi, à manger? Il y a un repas sur place.
Alors, il y aura le marché bio, le dimanche, où on pourra déguster, ils offrent l'apéritif.
Il y a le fameux cochon grillé de Saint-Sardos.
Donc, le samedi soir, il y aura le concert avec des tapas et un verre de vin rouge pour 5 euros. L'entrée n'est pas payante, mais l'assiette de tapas et le vin rouge, voilà.
Moi, je vais venir manger des tapas à 5 euros.
Ah ouais,
une assiette de tapas et un verre de vin rouge, ça fait rien, laissez les tapas. On se retrouve pour la suite de Qu'est-ce qu'on déguste dans quelques instants. Sachez, monsieur, dame, que si vous tapotez d'ores et déjà sur votre téléphone le 05 63 930 020, vous n'aurez plus à le faire tout à l'heure lorsque nous ferons le quiz. Et qu'il vous faudra être rapide pour répondre à quelques questions et remporter un coffret de Saint-Sardos.
Le coffret prestige.
Dans lequel, eh bien, il y aura les vins qu'on déguste ce soir, à savoir celui-ci, celui-là.
Et qu'est-ce qu'on déguste? On ne se fout pas de la gueule du client.
Ah, écoute. Hein.
Eh non.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Week-end festin culturel à Saint-Sardos, les 16 et 17 avril, avec des balades contées, des apéros musicaux, une pièce de théâtre,
des balades. Un vide-grenier.
Des tapas à 5 euros. Et des gens.
Et un verre de vin.
Un verre de vin à l'œil.
5 euros les tapas et le verre de vin offert.
Et des gens. C'est du marketing, ça, Saint-Sardos.
Je vais y arriver. Hein. Et des gens sympathiques. Bertrand Guiraud, président de l'AOC Saint-Sardos, Romain Miramont, vigneron bio à Saint-Sardos, coopérant parmi les, si j'ai bien compris, 41.
40, ouais, une quarantaine.
Ah, parce qu'il y en a 40 voleurs. Et non, c'est pas ça. Non, elle est nulle, pardon. Je la retire de suite. Voilà.
Tu vas avoir un procès.
40 adhérents français, pas espagnols. Hein.
Ouais.
40 adhérents
français. Qui ont leur parcelle de... à Saint-Sardos et autour. Et donc, dont un, Romain Miramont, qui fait du bio. Voilà.
Exactement.
Jean-Louis Debrul est avec nous également pour nous raconter un petit peu l'histoire de ce vignoble. Dès 1100, on buvait du Saint-Sardos. Il y a donc un cours d'eau qui passe là-bas. Ça doit être
la Garonne.
Est-ce qu'il y a un ponton? Est-ce qu'il y avait des gabarres à Saint-Sardos?
Quand les vins filent sur Bordeaux, ils filent par la Garonne. Hein. Et ouais. le port normal de Saint-Sardos, c'est Bourrette.
D'accord.
Verdun, c'est un peu plus loin. Il y avait également un port. Hein.
C'est le vin principalement qui fait la force commerciale de cet endroit pendant longtemps, ou il y a autre chose?
C'est un pays de polyculture. Hein. Les gens vivent en circuit fermé, donc ils produisent tout ce qui leur est nécessaire. Donc on trouve des céréales, du vin. Les gens font du bois, ils ont tous un petit bois.
Mais est-ce que les exploitations appartenaient à l'abbaye de Grand-Selve, qui est pas vraiment très très loin, ou à Bouillac? Comment ça se passait?
Alors la particularité de Saint-Sardos, c'est d'avoir été créé non pas par l'abbaye de Grand-Selve, c'est une sauveté. Mmh. Il y a l'église derrière. C'est le chapitre de Sarlat qui fonde Saint-Sardos. Et d'ailleurs, l'église de Sarlat, c'est l'église Saint-Sardos.
Sarlat de Canada?
Voilà, Sarlat Canada.
Et qu'est-ce qu'il veut
dans le Nord?
Dordogne.
D'accord, donc ça appartenait au milieu de l'abbaye de Grand-Selve, des possessions de l'abbaye de Grand-Selve. Il y avait une parcelle qui appartenait à l'église de Sarlat, qui était Saint-Sardos.
Alors,
faut le faire.
Je pense qu'il s'agit d'un pareage. Il y a eu une entente entre un seigneur local et l'abbaye de Sarlat. Le seigneur local fournit la terre. Et l'abbaye fournit les
investissements. Le savoir-faire.
Le savoir-faire.
Et le pognon.
Oui, parce que tous les Saint-Sardos que vous connaissez, vous en citiez un tout à l'heure, il y a aussi deux hameaux qui portent ce nom, sont des fondations du chapitre de Sarlat.
D'accord. Ils ont fait des Saint-Sardos un peu partout.
Voilà.
Ils ont planté de la vigne, ils ont foutu les mecs au boulot et ils prenaient la thune.
Alors,
et oh.
Alors,
business, hein.
La grande surprise, c'est pourquoi Grand Selve n'est pas présent sur le lieu. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie de la commune de Saint-Sardos qui appartenait à Grand Selve, c'est la vallée du Lambon, celle qui va de Combrouget jusqu'au Mas, mais tout le reste...
Au Mas-Grenier.
Au Mas-Grenier. Voilà. Au Mas de Verdun, on disait comme ça avant.
Ah, au Mas de Verdun.
Voilà. Et quand vous êtes sur le coteau, vous en parliez tout à l'heure, ben vous êtes en dehors de l'influence de Grand Selve.
D'accord. On est à Saint-Sardos.
On est à Sarlat.
Oui, d'accord. Ils sont compliqués. Hein.
Voilà. Ici, compliqué. Ici, c'est Sapiac.
Changer alors là aussi Saint-Sardos ça aussi ça va
eh
on va faire du beau ça toutes les réunions là
ah mais, qu'est-ce qu'il fait monsieur le président Bernard Guiraud
Bertrand
Quel âge que vous avez, vous appelez Bertrand? Non. Quel âge que vous avez,
vous êtes jeune.
Il est
taquin. Non, mais vous êtes jeune. Vous aussi, d'ailleurs, Romain Miramont.
Oui, bien sûr.
Vous êtes la relève, en fait.
Je suis jeune.
Dans les vignerons, voilà, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ce métier-là?
Alors, moi, c'est un petit peu particulier. Disons que je me suis installé agriculteur l'année dernière, en 2014, pardon. Et avant, bon, j'étais à l'étranger, en fait. J'ai habité pendant trois ans en Malaisie, à Kuala Lumpur.
C'est pour ça, vous étiez pas au courant.
Voilà.
C'est du Bordeaux. Il a acheté du Bordeaux. Vas-y, c'est du Bordeaux, c'est là. Non. Il est venu visiter. Ah bon, ouais.
Et c'est mon frère jumeau qui avait repris l'exploitation, qui m'a demandé expressément de revenir, de travailler sur l'exploitation. Donc j'étais parti tout seul en Malaisie et je suis revenu à deux.
Faire quoi en Malaisie?
J'étais prof de restaurant et œnologie. Donc j'enseignais le vin à des personnes qui n'avaient jamais vu un pied de vigne.
D'accord.
Ah, c'était assez compliqué, ouais.
Donc des dessins, beaucoup de dessins.
Voilà, beaucoup de
dessins. Et donc là, on se retrouve agriculteur, paysan, à Saint-Sardos, avec son jumeau.
Avec mon jumeau, ouais. Voilà, on est deux. Hein.
Donc vous, votre production... En raisonné,
voilà,
va à Saint-Sardos. D'accord. Ouais. Vous avez un droit de regard, d'avis sur, je sais pas, les vins qui sortent justement
comment
de la cave en tant qu'œnologue.
Bien sûr, on est tous les deux au conseil d'administration, donc on a notre part de responsabilité par rapport à la fabrication des vins. Mais Romain connaît très bien la partie production. Je vais vous l'expliquer.
Après, tout ce qui est donc on a une œnologue, voilà, pour bien sûr tout ce qui est.
Comment s'appelle? Dites son prénom.
Mélissante. Qui est également. Très jeune.
Ouais.
Comme nous, quoi.
C'est d'origine grecque, en plus, vous voyez.
D'origine grecque, ouais.
D'accord.
On va vous faire le résident, hein, bientôt.
Épaulé par Monsieur Barrault,
voilà,
qui
était notre ancien directeur,
voilà, donc,
qui l'a lancé dans le bain de Saint-Sardos.
Voilà.
D'accord. Toute la fabrication des vins.
Et donc voilà, donc, en termes de, par exemple, si on commence par le rosé là qu'on est en train de déguster.
Moi, je suis passé au rouge.
Ah,
mais c'est Symbiose, c'est
toujours. Par exemple, si on parle du Symbiose du rosé, c'est un rosé de saignée. Donc on va dire on ramasse nos raisins, on les met dans la cuve et le mou, quoi, le premier jus qui se met au fond de la cuve, on le tire et on le fait fermenter, quoi. Voilà, c'est un rosé de saigner.
Un rosé de pressé.
Et un rosé de pressé qui, comme son nom l'indique, les raisins sont directement pressés dans un pressoir, évidemment. Mmh. Et ensuite au niveau du rouge, voilà, on fait des une fois ramassé, en fait, il y a des la fermentation, on fait une phase donc fermentation qui il y a un long une période de 15 jours de fermentation
alcoolique.
15 à 20 jours quoi, suivant les vins quoi.
Et ça c'est fait à la cave.
Et donc ça c'est fait à la cave.
Et surveillé par votre œnologue
qui s'appelle
Mélissande.
Voilà. C'est grec d'origine. Ouf, c'était faux sûr, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que le rosé, c'est vraiment très bien, là, pour manger, même pour l'été, c'est à l'apéro, c'est vraiment sympa.
Ah, c'est pas très sucré contre.
Ah, non,
il est bien,
pas du tout.
Le rouge, c'est vif.
C'est un rosé sec, c'est pas du tout un rosé sucré.
C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, c'est mieux que le piscine, ça, c'est sûr.
Malheureusement, vous en faites beaucoup moins que le rosé piscine. Combien vous en faites de bouteilles de rosé? C'est combien la production
Une bouteille de rosé, on va dire, ça représente 30 hectos. Donc c'est vrai que moi, je,
en termes de bouteille, sur l'appellation, on fait combien de rosé? De plus en plus, on reste quand même.
Non, on a quand même dominant de rouge.
Oui, voilà, oui.
Moi, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de boire là.
Ça c'est bon, hein.
Ça c'est le rouge, c'est le rouge symbiose. Donc pareil, donc avec 60% de Syrah, du Tanat à 20% et ensuite Merlot, Cabernet Franc quoi.
Bio,
mais issu de raisins bio et vinification bio.
Plus c'est Sardos, ça te rend complètement euphorique, Rémi. Alors,
eh ben écoute, j'aime vraiment beaucoup. À combien ça coûte?
Ben par exemple, pour le rosé symbiose, on est à 5,90€ à notre boutique.
Et le rouge?
Et pour le rouge, on est à 7,90€, toujours pareil à la boutique.
Combien le rouge?
7,90€.
7,90€. Il y a deux balles de plus entre le rosé et le rouge.
Alors, il y a beaucoup de travail. Hein.
Après, bon, tout ce qui est travail, bon, après, voilà. Donc, tout ce qui est, j'ai ressorti la décavaillonneuse.
La décavaillonneuse. Ah, exactement.
On vire les cailloux.
On sort du transat, on prend la décavaillonneuse.
Ah, voilà. On appelle le cheval, il s'attelle, et puis il va faire tout seul.
Au vendange, vous avez des Roumains qui arrivent, des pays de l'Est, des Bulgares.
Non, des retraités autrement.
Ils bossent bien.
Mais comme il y a beaucoup de retraités, on peut vite échanger quoi.
D'accord, ouais, c'est pas mal.
Mais
une rotation de retraités.
Mais oui, c'est ça. Mais il faut faire bosser les vieux, moi je dis. Voilà.
Confiez vos vieux parents à la cave de Saint-Sardos, ils vont le récupérer.
Ou bien confiez-les à la plateforme Mamie Régal. Et on en et parle avec Caline Dejean qui est avec
Colline. Colline, on se calme,
Mais Caline, je trouvais ça bien. Mais... Colline, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Expliquez-moi vite, s'il vous plaît, que tout le monde comprenne autour de la table le concept de Mamie Régal.
Alors, Mamie Régal, en fait, c'est un site qui permet de mettre en relation des retraités qui sont passionnés de cuisine avec des salariés qui ont envie de manger des bons petits plats de mamie le midi. Et donc, en fait, on livre des plats préparés par des retraités dans les entreprises.
Mais c'est extraordinaire, mais vous remettez au boulot les vieux.
C'est ça. C'est un boulot qui est plaisant, quand même.
C'est quoi l'idée, en fait, blague à part? C'est de créer du lien intergénérationnel, de lutter contre l'isolement, c'est quoi?
C'est exactement ça. C'est lutter contre l'isolement des seniors. Donc, on a vu, en fait, qu'en France... Les seniors sont de plus en plus nombreux, qu'ils sont de plus en plus précaires et dans une situation d'isolement social importante. Donc nous, en fait, on a envie de revaloriser en fait nos seniors et de les mettre en fait à leur juste place dans notre société en les faisant cuisiner des plats et en leur permettant en fait de rencontrer des gens, que ce soit de leur génération ou d'une autre génération.
Comment ça marche? C'est une sorte d'Uber de la cuisine? Il y a une application.
C'est quoi votre modèle économique?
Alors en fait, on n'a pas d'application. Pour l'instant, on a juste un site internet. Donc, en fait, on a une formule à 12€ plat dessert. Sur chaque formule, la mamie va toucher 4€. Donc, c'est elle qui touche le plus. Ensuite, en fait, on a un intermédiaire au milieu qui s'occupe d'un petit groupe de mamies et qui leur fait les courses, qui livre les plats ensuite qu'elles ont préparés dans les entreprises. Donc, il fait un peu tout le lien logistique pour que les mamies, elles aient simplement à cuisiner. Donc, cette personne, elle touche 3€. Et ensuite, on a 3€ de matière première. Et en fait, nous, on récupère 1€. Donc, ce qui permet, en fait, on est très transparent sur ce modèle économique, justement, pour voir qui touche quoi.
Mais il y a une vraie logistique. Je pensais, moi, que c'était mamie qui se débrouillait. Pas du tout. Il y a du monde autour qui prend en charge tout ça, quoi.
Voilà, en fait, le but, c'est que les retraités aient simplement à cuisiner et à pas s'embêter avec les courses, etc., puisqu'on voit que sur le public senior, ben, ça peut être parfois difficile de faire les courses. Donc, ça peut être pénible s'ils ont à porter des charges, etc. Donc, nous, on a voulu faciliter, en fait, le temps de travail de la mamie, on va dire, et en fait, on a voulu mettre cette personne qui est l'intermédiaire et qui va aussi permettre de créer du lien social en même temps, parce qu'il va s'occuper toujours des mêmes personnes.
Oui, alors, bon, je veux bien comprendre. Alors, si je retrouve un dentier dans la daube, je m'adresse à qui?
Oui, on fait comment pour l'hygiène?
Alors pour les viennes, en fait, nous on est un service entre particuliers, donc c'est la mamie qui cuisine pour les salariés. Donc on n'est ni restauration collective ni traiteur, on est dans la catégorie particulier en fait, et donc on a certaines conditions.
Donc on s'en fout quoi.
Ouais voilà c'est ça. Si on demande un pied, je le ramène à la mamie.
Non mais c'est vrai. Ça, comment on fait pour la salmonelle, je sais pas, les œufs, la mayonnaise, ce genre de choses, vous voyez.
Alors en fait, on a été accompagné par la protection des populations et les services d'hygiène. On est passé en commission avec eux. Donc on a établi des chartes d'hygiène. Et par exemple, justement, les œufs crus et la viande hachée, on évite en fait les recettes avec ce genre de produits qui peuvent être à risque. Et ensuite, en fait, on applique les chartes d'hygiène et les règles d'hygiène de base qui sont d'avoir une cuisine propre et facilement nettoyable, d'avoir les mains propres, de laver les aliments, etc. Mmh. Et en fait, on fait un suivi avec nos mamies et cet intermédiaire qui fait la logistique aussi, qui vérifie à chaque fois que les règles sont appliquées.
Non mais la nourriture de mamie, en fait, ça n'a jamais tué personne.
Non mais ça c'est sûr.
Voilà. Et jamais.
Dites-moi, il y a une formation pour les mamies ou comment ça se passe? Comment se font par exemple les recettes? Est-ce qu'il y a des formations pour les recettes ou c'est elles qui choisissent ce qu'elles font?
Alors en fait c'est donc le Toqué, donc qui est le nom de l'intermédiaire en fait. Donc le Toqué recrute les mamies et voit en fait avec elles les recettes qu'elles souhaitent faire, parce qu'en fait nous on a envie de proposer de la diversité et que chacune nous propose sa recette favorite. Donc ensuite le Toqué la guide forcément en fonction de la pénibilité de la recette, pour pas que ce soit trop compliqué à faire, pour pas que ce soit trop long et aussi pour pas que ce soit trop cher non plus. Donc en fait il la guide, mais c'est elle qui propose leur recette fétiche.
Ok, d'accord. Vous êtes installé où? Parce que ça c'est un modèle économique qui fonctionne à Paris, j'imagine, peut-être dans des grandes villes, mais comment ça peut marcher, dites-moi.
Alors nous en fait, on est là pour l'instant, on est basé sur Toulouse, donc on n'est pas encore à Paris. Notre but en fait, c'est de nous développer, oui, dans les grandes villes, mais en fait, on peut, grâce à notre modèle économique, justement, avec cette personne qui est l'intermédiaire, qui est le Toqué, qui est en fait un auto-entrepreneur à qui on donne des outils comme l'utilisation du site, des outils pour recruter ses mamies, etc. C'est une personne qui peut faire ça un peu partout en France. Donc si dans un petit village, en fait, il y a des entreprises qui sont pas loin avec des salariés qui souhaitent bien manger et des retraités, ben en fait ça peut être une zone potentielle aussi si un Toqué se met à créer sa zone en fait.
Bah, tout ce qui peut éliminer la bouffe industrielle des cantines,
ouais,
et aller en circuit court, moi je suis pour.
Non mais moi aussi, sauf que alors justement, est-ce qu'on vous peut pas vous taper un peu sur les doigts sur le fait que vous venez mettre de la concurrence aux petits restos du coin qui essayent de se démener avec les trois entreprises qu'il a autour de lui, déjà qui râle le pauvre après le food truck qui s'est installé sur son parking.
Alors nous ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui on est sur des zones où il y a beaucoup de restaurants et on voit qu'il y a quand même de la demande, donc vu qu'en fait on fait aussi de la vente événementielle, c'est-à-dire que justement nous on est comme les food trucks, on vient une fois par semaine sur une zone. On n'est pas tous les jours, donc la concurrence elle est quand même assez limitée et puis en fait on propose quand même quelque chose de différent, puisqu'on propose de la livraison sur le lieu de travail. Donc si la personne veut vraiment sortir de son lieu de travail, elle va aller chez le restaurateur, et donc c'est une offre un peu parallèle mais un peu différente.
Allez, pour en savoir plus on va sur mamiregal.fr. juste une dernière question, puisque nous ce soir nous avons le plaisir de recevoir des vignerons dans cette émission Qu'est-ce qu'on déguste, des vignerons de Saint-Sardos qui sont dans la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, on est dans la même région maintenant. Hein. Bah d'ailleurs, on l'était avant déjà, hein, Toulouse-Montauban. On peut boire des coups avec Mamie Régale ou pas du tout?
Mais il faut se faire inviter chez les papis et les mamies. Il y en a qui nous invitent.
Ah non, mais d'accord. Mais je voulais dire que
ils ont le rinquin facile, les papis et les mamies.
dans le menu. Après, il y a du vin ou non? Non, ça vous en occupez pas.
Non, il y a un plat de dessert.
Si on nous propose une belle offre, pourquoi pas? Mais il nous faudra un bon partenaire.
On peut s'en occuper. On peut
juste
avoir
une dernière question. Papi et mamie, c'est à partir de quel âge?
La retraite.
Alors en fait, on prend des retraités, donc il y a des retraités qui peuvent avoir
jeunes, des retraités,
ans, mais voilà, c'est des retraités. Il y a des retraités jeunes et notre doyenne, elle a 90 ans, donc voilà.
Ah oui, quand même. Bon, Bertrand Guiraud, qui est le président des AOC de Saint-Sardos, ne manquera pas de prendre contact avec vous pour vous faire une offre.
J'envoie le bon de commande direct. Hein.
Merci beaucoup, Colline.
Colline,
tu vois que c'est mal écrit.
Ouais, tu as mal écrit.
Mais c'est pas moi, c'est ma collaboratrice qui a mal écrit. Colline. Salut, Colline.
Salut, Colline.
Bon week-end.
Au revoir.
Ciao.
Pascal, ta remarque sur les dentiers n'a pas plu à tout le monde.
Pascal, j'ai pas de dentier, ta grand-mère non plus, c'est ma mère qui est retraitée. Qui est... Ouais, pas du tout de dentier.
On te vient tout honneur, mais bon.
Elle est pas contente.
C'est déjà arrivé de toute façon.
Jazz.
À la demande générale.
Allez, Tana Maria.
Puisque là on a parlé de nourriture, là, on va parler de boisson, puisque le titre du morceau c'est Agua de Beber.
Un classique.
Un classique de la bossa nova que je ne pouvais pas laisser passer. Et Tana Maria l'avait d'ailleurs chanté à Montauban quand elle est venue au Festival de Jazz en 2000.
Agua de Beber.
Bientôt, quand tu diras le Festival de Jazz en 2000, ça fera vraiment un peu comme si tu disais... C'était mieux avant.
Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, Gamara. Água de beber, água de beber, Gamara. Certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará.
De Beber Camara.
Brasil.
Brasil, Brasil.
Brasil, Brasil.
Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame, autour donc de ce festin culturel de la cave de Saint-Sardos? Jean-Louis Debrulle, à quelle époque, moins ancienne peut-être, est créée la première coopérative à Saint-Sardos? C'est un piège que je vous tends là quand je vous pose cette question ou pas?
Non, la coopérative de Saint-Sardos, c'est 56.
Ah ben voilà.
Vous avez 60 ans, hein?
Ouais.
Oui.
Il nous l'a dit
56.
Tout à l'heure.
Oui, 56.
Elle a 60 ans.
56. Bertrand nous l'a dit. Avec toute une série de viticulteurs des environs, pas forcément que du village de Saint-Sardos.
Combien?
À cette époque, ils étaient une bonne centaine.
Mais avec des petites parcelles, non, c'est ça?
Alors, des petites parcelles, mais il y a eu un moteur, un monsieur important qui a su bien dynamiser cette affaire. C'est l'ancien maire de Saint-Sardos, qui était aussi conseiller général, qui s'appelait Marius Granier, et qui a été un élément important.
Ouais. Pourquoi dans... Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a soutenu le projet, et puis il l'a tenu jusqu'à ce qu'il se dessine complètement. Hein.
Parce que la cave de Saint-Sardos aurait pu disparaître, non, à un moment. Il n'y a pas une cave qui a disparu dans le Tarn-et-Garonne.
Alors, c'est la ville de Dieu.
La cave de la vie de Dieu, moi, ça me fait de la peine. À chaque fois qu'on passe là-bas, on voit ce grand bâtiment qui est joli comme tout, qui venait d'être refait d'ailleurs.
Peut-être pour ça, peut-être que ça a coulé.
Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre.
Ah ouais.
Non, ouais, il y a eu des problèmes financiers, mais il reste toujours des producteurs. Ils sont toujours. C'est la seule appellation en France qui n'est pas passée de IGP à NAOC. Ils auraient pu, mais les 6 producteurs n'ont pas voulu. Trop de contraintes.
Donc ça existe encore les vins de la ville de Dieu.
Ça existe toujours, bien sûr. Il y a une IGP, la ville de Dieu, si je me.
Oui, mais j'ai pas de copé, quoi. C'est-à-dire que chacun bosse dans son coin.
Chacun fait des caveaux particuliers.
Alors il y a vraiment 3 producteurs qui en produisent. Voilà, ça fait un complément.
Et les autres emmènent à Saint-Sardos.
Non, ça s'est arrêté un petit peu et ouais. Voilà quoi.
Ouais.
Mais ils font toujours du bon vin. Hein.
Je trouve que c'est dommage, c'est triste quand on voit disparaître.
Et il y a aussi la cave de Villaudry qui avait disparu il y a une vingtaine d'années.
Vous êtes la plus petite coopérative, non, dans le coin, la cave de Saint-Sardos, hein?
On est dans les plus petits.
Oui, sûrement. Je pense qu'on est
dans. Oui, mais on est dans un marché concurrentiel. Il y a vraiment beaucoup de vins dans le sud-ouest. Il faut vraiment innover. C'est pour ça qu'on a sorti le bio.
Vous faites du qualitatif, Sophie.
On est en montée en gamme.
C'est ce que je voulais dire. Je voulais vous emmener sur ce terrain-là. Comment on fait, finalement, pour exister quand on est une petite coopérative comme ça? C'est quoi le marché, d'ailleurs? C'est ici, c'est la région.
C'est très local.
Ouais.
C'est
ouais.
Très voilà la région, on va dire Midi-Pyrénées anciennement quoi. Donc tout ce qui est côté toulousain quoi. Après bon, bien sûr Tarn-et-Garonne, après le côté toulousain qui est très intéressant pour nous quoi. Mais on reste quand même sur un marché très local quoi.
Supermarché, resto, marché.
Voilà. Ouais. Voilà. On est beaucoup en super, en hyper, en grande distribution. Mais on essaye d'évoluer sur la vente directe, là où ça laisse le plus de valeur ajoutée et de marge pour les producteurs et pour la cave.
On a une boutique à la cave qui fonctionne très bien quoi, qui est vraiment
très sympa, un bon accueil.
Il y a un très bon accueil, mais on va bientôt rénover.
Et là vous vendez à la pompe aussi.
On en a un petit peu, tu vois, ouais. La pomme, mais les bibes prennent de plus en plus d'importance. Oui, le bib, ouais.
Exactement. C'est à la cave coopérative, au magasin de la cave coopérative de Saint-Sardos que vous devrez aller chercher votre cadeau. Parce que vous allez gagner un cadeau dans 5 minutes au 05 63 930 020.
Coffret.
Arrêtez de parler quand je dis le numéro de
téléphone.
Redonne
le numéro, allez.
05 63 930 020. Et le coffret, ce sera un coffret prestige dans lequel il y aura les vins qu'on a dégustés ce soir. D'accord? Voilà. Il y aura trois. Il y aura trois quilles, hein. Voilà.
Et les bouteilles seront vides, donc.
Flambez pas non plus.
Parce qu'on aura. Et il faudra aller chercher. À
la cave de Saint-Sardos. Oui, parce que. Pas non plus vous les envoyez, ça coûte cher. 05 63 930 020. À tout de suite.
0563 930 020. CFM. Jouer et gagner.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Allez, c'est parti, 05 63 930 020. Vous appelez vite. C'est maintenant pour faire tomber le pompon et remporter le coffret
prestige de l'appellation Saint-Sardos. Alors, de vin bio et les hauts de Cadix qu'on est en train de déguster en ce moment.
Est-ce que vous pouvez nous présenter, cher ami, alors vous, Romain Miramont, ou vous, Bertrand Guiraud, ce qu'il y aura dans le coffret que notre auditeur ou auditrice va remporter maintenant?
Alors, dans le coffret, donc il y aura un rosé, le rosé Symbios, donc c'est un rosé bio.
Médaille d'argent au concours de Paris 2015.
Exactement. Ensuite, il y aura le rouge Symbiose.
Ah, il est bien. Lui.
Toujours pareil avec.
Très bien. Il faut l'aérer. Hein. Tu l'aères une demi-heure et
aérer. Et une jolie Syrah qui bien une bonne typicité. Et ensuite les hauts de Cadix. Donc c'est ce qui est un vin en vendange manuel avec des très petits rendements. Alors, et donc Syrah Tanat. Principalement les deux cépages de l'appellation, donc Syrah Tanat, les deux seuls présents dans cette bouteille, et c'est donc un vin,
on peut dire qu'on appelle un vin de garde, donc qui peut se, qui,
eh ben, on se, peut se commencer déguste. À le voir.
Comment
parce que
ça
c'est
se
du
voit
2011, le millésime, c'est 2011. Il a déjà 5 ans.
Qui commence
deux bouteilles.
Qui se voit et
il va se bonifier.
Mais qui est très, voilà.
Il se garde, il se garde 6 à 8 ans.
Non, non, c'est pas des, ce sont pas des vins passés en fût.
D'accord, tant mieux. Nous, on n'est pas fan de ça. Super.
Ça c'est bien ça. Ça c'est bien.
Qui est là? Jérémy de la Motte Capdeville. Bonjour Jérémy.
Oui, bonsoir à tous.
Comment allez-vous?
Comment
allez-vous? Comment allez-vous? Ça va ou bien?
Oui, ça va bien, merci. Avec la...
ben voilà. Non, Jérémy, il flippe parce qu'il me dit, mais il n'y a pas de question.
Jérémy,
il y a une question. Qu'est-ce que vous mettez la plupart du temps, mais ça fait pas partie des questions du quiz, hein. Qu'est-ce que vous mettez la plupart du temps sur votre table comme quille quand vous, je sais pas, quand vous
le
allez, quand vous allez manger, non, j'allais dire non. Quand vous allez manger chez papy et mamie ou chez papa et maman le dimanche. Non.
Qu'est-ce que je mets la plupart du temps comme vin?
Ouais.
Oui, qu'est-ce que vous amenez avec vous? Qu'est-ce que vous portez?
Moi, j'aime bien le Montels. J'habite pas loin.
Auditeur suivant.
Vous avez perdu, Jérémy. Merci à la semaine prochaine.
Vous les avez reçus, mais j'aime bien le Saint-Cerdos aussi.
Ah, ah, c'est bon.
Il peut rester.
Va, ça va. Hey, c'est pas passé loin. Hein,
ouais. On sait où vous habitez. Attention. Hein.
Allez, attention. Jérémy, les vins.
Il y a 4 questions. Il faut trouver la réponse à 3.
Ouais, voilà.
3 sur 4.
Donc, les vins que l'on déguste ce soir.
Ça, c'est une question,
oh. Jérémy. Sont des vins de la cave de Saint-Sardos, de Donzac ou de Montpezat?
Des vins de la cave de Saint-Sardos.
Qui c'est qui a fait ces questions?
C'est toi.
Les vins qu'on a dégustés, la Symbiose rosée et Symbiose rouge. Alors, c'est des vins de la cave de Saint-Sardos, du Brulois ou de la Ville Dieu?
On peut prêter à confusion.
Je sais pas. Je n'ai pas compris la question.
Excusez-moi.
C'est normal.
Les vins Symbiose rosée et rouge que l'on boit là, est-ce que ce sont des vins de la cave de Saint-Sardos, de la cave du Brulois ou de la cave de la Ville Dieu?
Je sais pas, vous avez parlé de la ville aux dieux, mais je pense que c'est du Saint-Sardos quand même.
Où est-ce que se trouve la fête festin culturel ce week-end? Est-ce que c'est à Saint-Sardos, à la ville dieu ou à la cave des vins des coteaux du Quercy?
À Montpezat de Quercy.
Moi, je dirais à Saint-Sardos.
Oui, vous nous avez fait peur, vous nous avez fait peur. Il a fallu réfléchir.
Et une quatrième question. Bon, là, il a gagné.
Bon, et là,
pour l'honneur.
Mais pour l'honneur, une quatrième question. Quel est le nom du village qui a été créé en 1132 26 par le prioré de... C'est pas un prioré.
Le chapitre de Sarlat.
Le chapitre de Sarlat. Est-ce que c'est Saint-Sardos? Est-ce que c'est Montpezat de Quercy? Ou est-ce que c'est Sarlat de Canada?
Sarlat de Canada.
Saint-Sardos.
Il est fou, il est devenu fou, vous le rendez.
Vous m'avez énervé. On garde les cadeaux.
Photo, je vous prie, photo.
Bravo.
Alors,
bravo Jérémy. Pas de photo du studio dans cet état-là. Je vous prie, je tiens à ma place. Bravo Jérémy. Vous repartez avec un coffret prestige.
Alors il faut faut que vous alliez le chercher à la cave, au magasin de la cave de Saint-Sardos, soit demain samedi. Si c'est en rediff, c'est aujourd'hui que vous y alliez. Vous allez, soit demain dimanche. Donc vous avez samedi et dimanche pour aller chercher votre coffret prestige. Et puis, vous pouvez acheter d'autres vins.
Ok, Jérémy.
D'accord, merci.
Un bonus, il peut avoir la bise de Mélissante.
Demandez Mélissante de notre part et vous serez bien traité.
Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt.
Ça va. Merci beaucoup.
N'importe quoi, il en est tombé partout.
Ah, et puis...
À 1966, dans la cave existait déjà... Hein.
Ouais.
En 66.
Et date de 56.
De 56, tout va bien.
Georges suis.
Elle était toute jeune.
Je vais vous parler des In Rock avec un beau numéro hors série donc consacré à cette année 1966. En 66, il y a tout juste 50 ans, les Beach Boys, les Stones, les Beatles, Bob Dylan publiaient des albums sophistiqués aux sonorités nouvelles qui allaient faire rentrer le rock dans l'âge adulte. Le psychédélisme naissait, le folk était à son apogée. La pop française aussi s'émancipait avec l'arrivée de Dutron, de Paul Naref ou de Nino Ferrer. Au sommaire de ce numéro qui est très très bien fait, on décortique l'année mois par mois et par style de musique avec par exemple le folk avec Simon & Garfunkel qui sortent leur album mythique The Sound of Silence. Le jazz avec Coltrane, la scène jazz est en pleine ébullition à Georges cette année-là avec les labels Blue Note et Impulse avec des artistes comme Coleman,
Herbie Hancock,
Miles Davis qui est toujours
là-dessus. Voilà Miles bien sûr. Le rock avec les Stones qui enregistrent cette année 66 en 10 jours à Los Angeles l'album Aftermath. La pop avec les Beach Boys et leur mythique leur album de légende Pet Sounds avec un Brian Wilson à l'époque en état de grâce avant qu'il sombre.
Qui est dans les 10 meilleurs albums de tous les temps par le magazine Rolling Stones.
Une merveille de la pop music. Le cinéma, la mode et la littérature sont aussi évoqués dans ce numéro qui est très très bien fait, bien garni et qui est en plus accompagné d'un CD avec des classiques de cette année magique. Après avoir lu ce numéro, eh bien on a vraiment envie de dire c'était mieux avant. En effet, si on compare l'actu musicale d'une année comme 66 et celle de 2016, eh bien on pleure un peu parce que c'est une année sur une année, il y a eu des albums vraiment qu'on écoute encore aujourd'hui.
Ouais, attends, les et les Stones qui sont toujours en vie vont sortir à la fin de l'année un disque de blues.
Qui ça?
Les Stones. Le
One Stones. Ah oui, bon, les papys, bon, voilà.
Oui, mais ils sont toujours là.
Les autres sont morts.
On va les inscrire sur Mamie Régale.
On écoute un extrait.
Mick Jagger Régale.
Un extrait du CD donc qui vous est offert avec ce magazine hors série des In Rock. On écoute Herman Hermins avec le classique No Milk Today.
Oh, j'aime bien ça.
This message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. A symbol of the dawn. No milk today. It seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today. It wasn't always so. The company was gay. Tonight and today.
Herman Hendrix avait le classique No Milk Today que vous retrouvez donc sur le CD des Irrecuptibles à l'occasion de la sortie de ce hors-série consacré à l'année 1966, une année exceptionnelle pour la musique.
Ça date un peu plus. On trouve dans certains restaurants les vins de la cave de Saint-Sardos. Vous commercialisez sur des tables de restaurants de la région ou pas?
Oui, on a, sur toute la région là, on a un commercial qui navigue un petit peu partout. On en trouve beaucoup sur Montauban, sur les restos en général autour de Saint-Sardos. À Toulouse aussi, beaucoup sur Toulouse.
D'accord. Alors à Toulouse, pas mal, ouais. Il vous faudra dire à votre commercial d'aller rencontrer les gars de l'alimentation. l'alimentation. C'est un food store qui s'est ouvert en décembre dernier. Et c'est sur une idée de Romain Pécré et Christophe Baron qui ont déjà deux restaurants dans l'hypercentre toulousain, un qui s'appelle le Télégramme et l'autre Côté Vin. L'alimentation, nous disent-ils, c'est un espace vivant et participatif où le client peut voir ses plats préparés en direct. Et c'est vrai, puisqu'on voit, il y a 400 mètres carrés sur deux niveaux, un décor industriel, chaleureux avec un peu de bois. Et puis on voit donc cette cuisine. On grignote au bar ou on s'installe à une table pour découvrir des plats gastronomiques, enfin gastronomiques, oui, si.
Bistronomique.
C'est
qu'il y a quoi dans
l'assiette? Alors attends, je te propose justement de rencontrer Wilfried, qui est le directeur de ce food store, l'alimentation, et qui nous en dit un peu plus là-dessus.
L'idée a vraiment été de mettre en avant les produits. Donc en fait, on a une partie vente à emporter, donc avec une partie caviste, avec des vins de la région, des alcools, des spiritueux, une partie également champagne. On a toute une partie épicerie fine avec des produits conditionnés également, une partie boucherie, donc là sélectionnée du coup par le chef François, ainsi qu'une partie cave à fromage qu'on retrouve en bas de l'établissement.
Et voilà, et le chef de l'alimentation, c'est François Vazouka, qui officie également au Télégramme. Il s'est formé à l'étranger, notamment sur la croisière, les croisières paquets en Asie. Et puis chez son oncle, la mère Guy à Lyon. Il dirigeait une équipe de...
Son oncle, c'était la mère Guy.
C'est ça. Il dirige...
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inverti?
Il dirige une équipe de 8 personnes dans sa cuisine qui est ouverte sur la salle où s'active une quinzaine de serveurs.
Sur l'alimentation, on est plus sur une formule de grill qui est très très bien faite d'ailleurs, puisqu'on a des fours à bois espagnols qui donnent un goût vraiment très particulier à tout ce qu'on passe à l'intérieur, que ce soit légumes, viande, poisson. Voilà. Il faut avoir un très très bon produit au départ et puis le respecter jusqu'au bout.
Et c'est ça le truc de cette alimentation, c'est ce fameux four. Et ce fameux four, le four Josper, François Vazouka nous le présente et il ouvre la gueule de la bête de fonte au design élégant. Et là, croyez-moi, il fait super chaud.
Et donc, je vais vous montrer ce fameux four Josper. Donc, le four Josper, c'est une machine de guerre puisqu'on l'allume le matin et puis voilà, là, on est en train de l'allumer.
Ah, oui, là.
Et on travaille sur les deux niveaux. C'est ça chauffe.
C'est quoi, c'est en fonte?
Alors tout est en fonte, ouais. Le cadre est en fonte complètement, donc il y a une belle accumulation de la chaleur et qui est bien répartie à l'intérieur. Et ensuite donc on travaille directement sur le grill ou on met sur des plaques comme ça, et donc ça chauffe très très fort. On travaille en principe quand il est à fond dans les 300 degrés, ouais. Il peut monter beaucoup plus, mais 300 degrés en principe c'est très très bien. Et on arrive à le régler ensuite par un phénomène de clapet qui est en haut et en bas pour un apport d'air bien sûr, et qui fait consommer la braise beaucoup plus vite. Donc il faut vraiment avoir une petite formation dessus pour savoir s'en servir.
On l'apprivoise pas comme ça.
Non, c'est une sacrée bête. C'est pas facile.
Voilà, alors notez qu'à l'étage, des ateliers de cuisine et d'œnologie ont lieu régulièrement. On s'inscrit sur alimentation-toulouse.com. Voilà une adresse à découvrir, l'alimentation, 3 rue Maurice Fonviel, une épicerie fine, mais aussi une cave. Donc on peut tout ce qu'on boit, on peut l'acheter. C'est une adresse à découvrir.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Merci monsieur, bon après-midi.
Merci vous aussi.
Puis en plus, t'as vu, ils sont polis. Elle t'a ouvert la braguette, là.
Ça coûte cher, cette
petite. Tu vois,
Non,
mais le billet, c'est 19 euros, à peu près, 20 euros, tu vois, 20 balles. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux acheter le morceau de viande de l'entrecôte que t'as envie, tu peux l'acheter au poids. Donc t'es pas obligé de te taper l'entrecôte à 450, tu peux te taper l'entrecôte à 100, par exemple, tu vois, voilà. Non, c'est un très très chouette endroit, très joli, qui est bien fabriqué. Alors ouais, certains diront très bobo toulousain, mais pourquoi
il
pas
en faut.
Oui, non. Non, mais c'est
chouette.
Et alors figurez-vous pourquoi j'étais là-bas. Pourquoi j'étais là-bas? Tout simplement parce qu'il y avait une conférence de presse du festival Lot of Toulouse. Et comme on recevait
Lot of Saveur.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Lot of Cahors.
Oui, Lot of Saveur.
Lot of Festival Gastronomique.
Lot of Toulouse. Tu viens de le créer.
On va la refaire. Celle-là, on la coupera au montage. Donc, non, Lot of Saveur, c'est à Cahors les 1, 2, 3 juillet. Et la conférence de presse se déroulait hier, donc, à l'alimentation. Et ça m'a fait penser, finalement, à votre week-end aussi. Vous, c'est le festin culturel. On est là-dedans. On est dans cette idée, quand même, de concupiscence, de bien, d'aimer les bonnes choses, la bonne chair.
La convivialité.
La convivialité, ouais, c'est ça.
C'est vraiment la convivialité mêlée au culturel, et voilà quoi, c'est tout ce que tout ce qui est je veux dire, celui qui vient va voir celui qui fait le vin, c'est
une foire au vin et puis basta quoi. Allez, voilà, viens, achète mon vin et barre-toi. Voilà. Non, c'est pas ça. Ouais.
Le client pourra parler avec le vigneron qui fabrique le vin, en fait, qui produit le raisin, et donc c'est les clients attendent de ça, ouais, maintenant. De toute façon, il faut pour se démarquer, il faut vraiment avoir jouer cette carte locale, et c'est ce qu'on fait très bien.
Ça, c'est la première édition que vous faites là?
Non, marche de mieux en mieux, puisque pour le repas de midi, par exemple, pour le cochon de lait, c'est déjà complet.
Donc, complet,
pour
c'est
les auditeurs,
combien vous attendez de personnes?
On est 200. On va être 200.
Voilà, à table.
On est complet depuis 200
sur un
jour,
cochon de lait, ça fait pas beaucoup.
Ça fait un joli cochon, ouais.
Il y en a peut-être deux.
Vous avez plusieurs cochons de lait, on est bien d'accord.
Mais c'est vrai que ça marche très 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 bien. D'ailleurs, pour les auditeurs, pour l'année prochaine, il faudra réserver bien à l'avance.
Non, mais ça, leur dites pas ça parce qu'ils vont pas venir. Ils peuvent venir et bouffer autre chose.
Oui, il y aura le marché. Il y aura le marché bio qui vous attend d'ailleurs. Si je...
Boulangerie Bessou, Café Tenango, qu'on connaît, l'effet du potager à l'abri, Tremblay, une association de producteurs, la chèvrerie des chênes, Sandrine Stefanini.
Voilà. L'effet du potager, c'est une association de producteurs représentée par Madame Alabert. Et un produit des légumes secs, produit pâtés végétaux, je sais pas ce que c'est ça.
Les pâtés végétaux, c'est tu prends un petit peu de salade, tu mélanges avec un petit peu de laitue et un petit peu de pissenlit.
Et même moi j'irai pour goûter.
Donc des pâtés sans cochon, sans porc.
Ça ne pas. Ils te pourrissent.
Sans pâté,
ils
vont y aller. Sans pâté. Et donc tout ça, c'est les exposants du marché biologique dimanche de 8h à 13h, 14h.
C'est quoi l'avenir des vins de Saint-Sardos, monsieur le président? Du haut de vos 23 ans, là.
23 à 35, quand même. Hein.
Bravo, monsieur.
Non, l'avenir, bon, il est dans les jeunes, quand même, comme Romain, moi, et puis d'autres producteurs, qu'on essaye de reprendre bien les vignes, faire de la qualité, surtout, c'est ce qu'on... Non, je vais pas dire ça, mais bon, il y a une mentalité maintenant différente. Mieux, depuis une dizaine ou une quinzaine ou une trentaine d'années, on s'est mis à améliorer le vin, et maintenant, pour vendre le vin, il faut faire des vins de très très bonne qualité.
Il faut
qu'il soit bon. Et ce qu'on fait très bien à la cave. Maintenant, à l'avenir, on cherche les producteurs, on cherche à implanter de nouvelles lignes. Parce que eh ben il nous en manque toujours, donc
des coopérateurs à Saint-Sardos,
des coopérateurs.
Ben oui.
Est-ce que vous allez mettre du vionnier chez vous aussi, parce que c'est un super mode en ce moment.
Oui, on a du blanc, il y a du blanc, il y a du vionnier, oui. Exactement, oui.
Après, on a du blanc. Il va y en avoir un bio.
Un bio pour l'instant, c'est pas encore fait, mais j'espère bien.
Vous faites un pétillant de muscat. Alors ça, c'est quand même très 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 curieux.
Tu remarqueras qu'ils l'ont pas emmené.
Il vaut mieux. Ça tient pas à la chaleur. C'est quoi ce pétillant de muscat? C'est qui le fait, ce pétillant de muscat?
En fait, on a du on produit du muscat, en fait, le muscat, donc.
Vous le sous-traitez.
En fait,
vous
achetez
le pétillant de muscat.
Parce que là, ils sont chauds.
Non, mais on produit le raisin.
On produit le raisin.
Muscat. Donc,
Le faites pétiller.
Mais après, il y a une technique spéciale pour faire du pétillant.
Vous le faites pétiller.
On n'a pas les moyens pour.
D'accord.
Pour faire, donc on fait sous-traiter cette vinification, même après la vinification, puisqu'on fait la vinification et après on apporte ce vin afin de le porter.
Et ils vous font pétiller ça.
Mais ça dure très longtemps.
C'est à Carcassonne que vous faites?
Non, c'est...
Je crois que c'est à Carcassonne. Ah oui?
Bah alors.
Combien vous faites de bouteilles?
On en fait pas beaucoup. Je sais pas combien. Voilà, c'est une question.
Promotion valable uniquement ce week-end. Sixième bouteille offerte sur la référence suivante. Belle de Cadiz rosé sec, symbiose rouge et pétillant de muscat.
Voilà,
c'est pour ça que je vous questionne sur pétillant de muscat. Vous en achetez 5, vous en achetez 5, vous avez la sixième.
Vous avez l'écart du troisième âge qui vient.
C'est pas un peu pour les vieux, ça, le pétillant de muscat.
Ah, on va faire du mousseux bientôt, ouais.
Pourquoi vous restez pas sur vos métiers à faire du rouge, putain? Chez vous, vous
faites du rouge. Parce qu'il faut innover. Au début,
ça a très bien marché.
Mais vous allez perdre votre âme à faire des espèces de trucs marketing.
Attention à pas faire du rosé de ginger.
Vous allez finir au rosé piscine, vous.
On va peut-être créer, je sais pas, le rosé barbecue.
Non, pitié, s'il vous plaît, continuez de faire de la qualité.
Faites
parce
votre
que
terroir.
C'est ce que vous faites. Moi, je trouve que à chaque fois qu'on emmène le dimanche sur la table de repas de famille un vin de Saint-Sardos, on se trompe quasiment jamais. Donc, je trouve que c'est bien. Si en plus on peut y amener du symbiose qui est bio maintenant, je suis ravi, je le découvre. Et ce soir, je dis bravo parce que vraiment ce rouge là, j'aime beaucoup. Bien sûr, le Cadiz.
Ça vaut combien ça, le Cadiz 2011?
7,90. Hein.
Mais pareil, toi,
tu vois. Bah ouais, tu vois.
Moi,
c'est
balle,
un
excellent
rapport qualité. Voilà. Ouais. C'est vraiment. J'ai été à une réunion là de la Fédération des vins de l'AOC et il disait, il y a une statistique qui disait que les gens qui buvaient un vin du sud-ouest, une appellation du sud-ouest, étaient pratiquement jamais déçu, hein. Tandis que quand vous buvez du Bordeaux.
N'avait jamais de cancer. On n'était jamais déçu. Ils n'avaient pas de poux.
Mais quand il y avait du Bordeaux à table, il y avait un pourcentage de déçus beaucoup plus important.
Bon,
donc, buvez local, hein.
Il faut être.
Là aussi, Saint-Sardos.
Il est pas président pour des
C'est pour ça qu'on a des petites appellations, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment très important.
Oui, bon, là, faut aimer la Syrah quand même.
Jean-Louis de Brûle. Vous donnerez c'est quoi, c'est une balade comptée, comment ça va se passer pour vous ce week-end là, c'est à un endroit précis ou c'est en se baladant que vous racontez
l'histoire? Alors je pars de la cave et je fais la tournée du village.
D'accord, et vous vous arrêtez à des endroits précis?
Je m'arrête à des endroits qui me permettront d'évoquer le passé historique du village.
D'accord, par exemple un endroit?
Cimetière.
Ouais. C'est l'endroit où il y a de plus en plus de monde.
Ben oui,
on finira quand même.
Sur le cimetière, on peut dire beaucoup, beaucoup de choses.
Est-ce qu'on boit des coups à chaque arrêt?
Au cimetière, rien n'est prévu en tout cas. Hein.
Sinon, il y a de l'eau dedans.
C'est à quelle heure que vous démarrez vos balades?
Alors, le samedi, ce sera à 15h et le dimanche à 10h.
Sur la digestion, c'est cool. Et il vaut mieux. Moi, je parie plus sur le dimanche à 10h. Avant la messe.
Alors, ce sera embêtant parce qu'on ne peut plus visiter l'église alors.
Ah, d'accord. Pourquoi elle se casse la figure, l'église?
Non, pas du tout. Mais bon, s'il y a un office, on ne peut pas rentrer.
Ah.
Que les gens s'en aillent.
Oui, bon, on les fout dehors. Hein. Non, pas
Rémi, on vous met dehors, oui.
Jean-Louis de Brûle, merci d'être venu. Romain Miramon, merci également. Bertrand Guiraud.
Je peux rester si vous voulez.
Bertrand, c'est ça. Je pas de bête. Bertrand, président de l'AOC des vins de Saint-Sardos, merci d'avoir été ici, de l'AOC de Saint-Sardos.
Ce week-end à Saint-Sardos,
samedi et dimanche, donc, pour les festins culturels. Merci d'être passé dans Qu'est-ce qu'on déguste? À la prochaine.
C'est nous qui vous remercions, en tout cas. C'était un accueil très chaleureux et on reviendra la semaine prochaine.
Bah, nous, on aime bien les invités qui poussent la porte avec les pieds.
Santé, à la prochaine.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Teco, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.